Il ne nous reste plus qu'à extraire pour vous de la Gazette des Tribunaux, où elles ont été publiées à leur date, des échantillons variés de ce qui s'y jugeait. Voici donc le quatrième livret. Maintenant, huissier, appelez les causes.
Silence ! Affaire suivante. Le bain à tout faire.
Un écriteau, affiché dans les cabinets de bain, avertit les clients. Premièrement, qu'il leur est interdit de jeter des substances dans leur baignoire sans en prévenir le directeur de l'établissement. Deuxièmement, qu'ils peuvent réchauffer ou refroidir leur bain, mais n'ont pas le droit de le renouveler entièrement. C'est d'ailleurs ainsi que les choses se passent généralement, à cela près d'une certaine quantité de carbonate dont on tolère l'addition, par le baigneur, à l'eau pure qui lui est due. Une vieille dame, la veuve Labourasse, paraît avoir l'habitude d'outrepasser de beaucoup la tolérance, à en juger par le fait qui a amené son renvoi en police correctionnelle. Elle est prévenue d'injures par elle proférées à l'adresse d'une fille de service du chef de l'établissement. Tous deux sont cités comme témoins. Et voici ce que raconte la fille de bain.
Cette vieille dame arrive avec un grand panier et demande un bain. On le lui prépare et quand il est prêt, je la conduis à son cabinet. Je lui demande si elle a besoin de quelque chose, peignoir, savon, etc. Elle me répond qu'il ne lui faut rien. Je la laisse seule et je m'occupe des autres clientes. Je ne pensais plus à elle quand, au bout de 3/4 d'heure au moins, j'entends des petits cris de chiens à qui on marcherait sur la patte. Je regarde dans le bureau, il n'y avait pas de chien. J'écoute d'où partaient les cris, et je découvre qu'il partait du cabinet de la vieille dame. Je me dis alors, je l'avais oublié, il y a près d'une heure qu'elle est arrivée. Qu'est-ce qu'elle fait? Et elle a introduit un chien.
Le président.
Vous ne lui avez donc pas vu ce chien?
Du tout.
La prévenue.
Il était dans mon panier.
Je parle de ça au patron et il me dit, entrez dans le cabinet, voyez ce que c'est. J'entre et qu'est-ce que je vois? Madame qui savonnait son chien dans la baignoire. Il faut vous dire que j'avais entendu cette dame réchauffer ou refroidir son bain, je ne sais plus au juste, mais ça n'en finissait pas. Et j'ai compris en voyant laver le chien qu'après avoir pris son bain, elle avait vidé la baignoire, puis l'avait remplie pour la toilette du chien, finalement qu'il criait parce qu'elle le savonnait. Mais bien mieux! Il y avait dans un bol 2 œufs qui cuisaient dans l'eau chaude pendant le savonnage du chien. Madame se faisait des œufs à la coque avec de l'eau du robinet d'eau chaude. Et elle avait sur la tablette un coquetier, un couteau, du pain, du fromage et une petite bouteille de vin.
Et le bain coûte combien?
Le témoin.
12 sous.
Alors, pour 12 sous, elle se baignait son chien et faisait sa cuisine?
C'est ça, c'est ce que je dis à madame. J'ai été prévenir le patron. Comme elle était habillée, le patron est venu et lui a déclaré qu'ayant renouvelé son bain, elle aurait à payer 1 franc. Là-dessus, grande colère de madame, qui me traite de grand chameau et traite le patron de voleur et refuse de payer. Enfin, fait une telle vie qu'un garçon est allé chercher les gardiens de la paix. On a conduit madame chez le commissaire de police et le patron a porté plainte.
C'est à n'y pas croire. Vous allez dans un établissement, vous prenez un bain, vous en faites prendre un autre à votre chien, vous vous faites des œufs à la coque pour épargner du charbon, vous dressez votre déjeuner, et quand on vous demande 1 franc, vous injuriez tout le monde.
La prévenue.
J'ai droit à l'eau chaude, j'en ai pris dans un bol, j'y ai mis mes œufs, ça ne regarde personne. J'ai baigné mon chien dans l'eau de mon bain, elle était à moi.
Vous l'avez renouvelée, l'eau de votre bain.
C'est faux. Je l'ai seulement réchauffée. J'en avais le droit.
Le robinet a marché au moins 5 à 6 minutes.
Le président a la prévenue.
Enfin, laissons de côté votre droit. Vous n'avez pas celui d'injurier.
Parce qu'on voulait me faire payer ce que je ne devais pas. Le maître du bain voulait me prendre mon panier où il y avait 2 serviettes, du savon, un couteau, un coquetier.
Le tribunal a condamné à 25 francs d'amende cet habitué du bain à tout faire.
Affaire suivante. Enfermé dans l'obélisque.
Il y a bien quelquefois du vrai dans ce précepte d'un sceptique endurci. Le premier mouvement est le bon. C'est pour cela qu'il faut s'en méfier. Il en est de même un auquel il est toujours sage de résister. C'est celui qui pousse à reconduire chez lui un ivrogne attardé et chancelant sur la voie publique. Mais que voulez-vous ? Des cœurs vraiment sensibles n'en cherchent pas si long. Et voilà comment 2 braves passants ont pris chacun par un bras un nommé Toupelard, planté à 2 heures du matin au beau milieu des Champs-Élysées, et indiquant par ses vacillations qu'il avait devant les yeux la preuve physique de la justesse du système de Galilée. Il est plus que probable qu'il a été si désagréable à ses 2 protecteurs qu'ils l'ont déposé le long de la grille de l'obélisque et sont allés se coucher, car c'est là que des agents l'ont ramassé. Et comme il est rare qu'un pochard ne finisse pas par outrager les agents, Toupelard n'a pas raté l'occasion. Et le voilà en police correctionnelle. Il ne nie pas les paroles qu'on lui impute. Il ne se les rappelle pas.
Mon président, soyez assis tutélaire pour m'écouter. Ce que je vais vous dire est un fait réel. Ayant une épouse, que je ne pouvais pas faire un pas, ni même regarder une femme, par sa jalousie, je me suis donc mis avec une bonne amie, que c'est encore 100 fois pire. Vu que j'ai changé une simple agrafe contre un crampon.
Le président.
Mais quel rapport cela a-t-il avec ce qu'on vous reproche ?
Mon président, le rapport qu'ayant eu une dispute avec mon crampon, j'ai été me dissiper avec des camarades qui m'ont fait boire ferme. Pour lors, me trouvant tout seul sur les Champs-Élysées, et que les jambes, ça n'allait pas du tout, vu que quand on a bu du liquide, on ne...
On n'est pas solide. Mais les agents que vous avez outragés, c'est là qu'il faut arriver.
M'y voilà, mon président. Pour lors, 2 particuliers me prennent bras-dessus, bras-dessous, pour me reconduire. Alors, en marchant, je leur conte la chose de mon épouse et de ma maîtresse. Et que je dis à ces 2 messieurs que je ne voulais pas rentrer. Alors, étant arrivé à l'obélisque, ils me lâchent. Moi, n'ayant ni tête, ni jambes, ni yeux, je me dis « Où que je suis ?» Je tâte, je sens une grille. Je vas tout le long, en tâtant. Je ne trouve pas de porte. Toujours de la grille, encore de la grille. Alors je me dis « Ah, les misérables, ils m'ont enfermé. » Voyant ça, je me suis couché par terre, pour dormir en attendant qu'il passe quelqu'un pour m'ouvrir la porte. Voilà, c'est des agents qui m'ont réveillé le matin.
Et vous les avez outragés ?
Je ne vous dirai pas, mais sur le moment du réveil, j'ai cru que c'était ceux qui m'avaient enfermé. Après, j'ai bien vu que je ne l'étais pas, vu que j'étais dehors.
Les agents entendus font connaître les outrages dont ils ont été l'objet.
Mon président, ça vient de l'ignorance des classes que j'appartiens, vu que...
Le tribunal le condamne à 3 jours de prison. Si Joseph Prudhomme eût été présent, il aurait achevé la pensée du prévenu en répétant cette réflexion sur l'ignorance qu'il a léguée à ses concitoyens. Avec l'asticot de l'ignorance... On pêche souvent le goujon de l'erreur dans l'océan de l'incertitude.
Affaire suivante. Le café de la portière.
L'acte le plus important de la vie d'une portière, c'est la préparation de son café au lait. C'est par là qu'elle commence sa journée. Quand elle a pris son café, elle soigne son merle, son chat et son mari en dernier. Ne demandez rien à une portière qui a son café sur le feu. Tenant la queue de la casserole d'une main crispée par la crainte, elle couve d'un œil plein de sollicitude le lait dont la surface ridée et boursouflée annonce qu'il va monter. En cet instant, la portière est indifférente à tout ce qui se passe sur la terre. L'arrivée de son journal, que le facteur lui jette par le vasistas, n'a pas même le pouvoir de la distraire de sa préoccupation. Et quand on la voit assise près de son réchaud, comme Marius sur les ruines de Carthage, l'œil fixe et l'esprit tendu vers une pensée unique, comme le vainqueur de Jugurtha, on comprend ce mot d'une dame du cordon à la nouvelle d'un tremblement de terre. « Ah, mon Dieu, et ceux qui avaient leur café sur le feu ?» Malheur donc à l'importun qui, par une arrivée intempestive, cause la fuite du lait en ébullition d'une portière. Madame Croisil en sait quelque chose, et ce qui lui en a coûté. Elle va le raconter au tribunal, devant lequel comparaît Madame Binoche, concierge. Madame Binoche, pour paraître devant ses juges, a revêtu ses plus beaux atours. Elle a coiffé sa tête d'un chapeau orné de coquelicots, qui n'humilie pas sensiblement un nez dont la nuance ne peut être due à l'abus du café au lait. Le reste de sa toilette est composé avec la même recherche, et le langage même de Madame Binoche, expression et inflexion de voix, respire un apprêt de circonstances. Ses révérences, accompagnées de sourires, tout en elle, enfin, trahit sa pensée d'exercer une séduction sur ses juges.
« Messieurs,
dit-elle,
vous m'envoyez tout évaporé de me retrouver en compact avec madame, que ma scène à son égard m'a si tellement fait de mal que je n'en suis pas remise d'avoir été humiliée par cette personne-là devant la domesticité de la maison, moi qui suis névralgique comme une épileuse. »
Le président.
« Tout à l'heure, vous vous expliquerez. »
Madame Groisil.
« Madame, qui me traite de cette personne, fait la bonne apôtre à présent. Que si vous aviez vu sa précipitation sur moi, comme un lion ravissant. »«
Ah, Seigneur ! Et vous qui m'avez porté un coup dans le sein, madame ! Que si mon mari n'était pas si ombrageux de jalousie, j'aurais fait dresser un certificat par le pharmacien. Mais ces choses-là, c'est si délicat pour une dame !»
Le président à la plaignante.
« À propos de quoi cette femme vous a-t-elle frappé ?»«
À propos, monsieur, que quand madame a son café sur le feu, il semblerait que c'est le sort de la France. »«
Madame, ce que vous dites là est si tellement d'une stupidité qu'on n'en voit pas le nombre. »
« Alors, messieurs, que j'ai eu le malheur de venir lui parler dans ce moment-là, pour lui réclamer de l'argent qu'elle me doit depuis des temps mémorables. » Qu'elle m'en doit, je ne sais combien, au moins, ce qui est la vraie cause que son café s'a renversé.
Si vous croyez, une femme à jeun, dont je l'étais généralement.
Oh, à jeun, il est au vu et au su de tout le quartier que vous buvez votre goutte en vous levant. Et je crois que ce matin-là, vous en aviez bu plusieurs. Sans vous offenser, madame.
Le président a la prévenue.
Reconnaissez-vous avoir porté des coups à la plaignante ?
Repoussé du simple coup de Monsieur le Président, parce qu'elle me faisait en aller mon café. Là-dessus, elle m'a agoni de mots infectueux devant toute la domesticité, et que, Dieu merci, son argent, je lui ai offert 10 fois.
Oh, quel faux !
Qu'est-ce que tu dis ? Messieurs, comme v'là le saint soleil de Dieu qui nous éclaire devant Dieu et devant les hommes.
Il pleut à verse.
Le tribunal n'a pas à s'occuper de cela.
Non, mais c'est parce qu'elle le dit. Mais monsieur approuve que je lui ai demandé sa note.
Je vous l'avais donnée.
Ça, une note, un bout de papier tout en chiffronné. On n'y voyait rien que des chiffres, et le reste impossible à lire. Si bien que je lui ai dit, « Madame, je vais faire taxer votre mémoire. »
Taxer de l'argent prêté ?
En voilà assez.
Monsieur a raison, en voilà même trop.
Mais taisez-vous.
Monsieur, je n'étais pas né pour être dans la conciergerie. Je suis d'une bonne famille. Mon père faisait les eaux de vie en gros.
Oui, et vous les buvez en détail.
Le tribunal condamne Madame Binoche à 50 francs d'amende.
Fin suivante. Un drôle de client. Un drôle de client.
Il fut un temps où la mystification s'était élevée à la hauteur d'une institution, et ce n'est assurément pas de sa seule imagination que Balzac a tiré le chapitre des chevaliers de la désœuvrance. Deux maîtres dans l'art de mystifier autrui ont quitté ce monde il y a peu d'années, Romieux et Henri Monnier, l'illustre père de Joseph Prudhomme, et ils semblent avoir emporté leur secret avec eux. Du moins leurs élèves, s'ils en ont fait, n'ont-ils pas acquis la notoriété par des farces retentissantes? Car franchement, on ne peut pas insister sur la réputation inexplicable des fumistes. Il faut d'ailleurs, pour mystifier les gens, une tenue et un langage qu'on chercherait vainement dans le ramonage, et une humeur qu'on ne saurait attribuer à l'influence de la terre à poil sur la gaieté française. Vous comprenez bien qu'il fallait les façons et les dehors de celui qui fut plus tard à la tête d'une préfecture où il se signala par son ordonnance sur les hannetons pour s'arrêter à l'étalage d'un marchand d'habits, examiner les vêtements exposés, tout cela dans l'unique but de s'amuser aux dépens du boutiquier.
« Donnez-vous la peine d'entrer, monsieur. Vous trouverez dans le magasin ce que vous cherchez. »«
Oh, je ne crois pas. »
répond Romieux.
« Vous ne devez pas avoir cela. »«
Mais, pardon, monsieur. Entrez, je vous en prie. »
Le prétendu client paraît céder. Le marchand tire de ses rayons des gilets, des pantalons, des redingotes, etc. et étale tout cela sur le comptoir. Romieux ne trouve jamais ce qu'il désire. D'autres rayons sont vidés. Une partie du magasin y passe, et Romieux de répéter toujours
« Je vous le disais bien, vous n'avez pas ce que je cherche. »«
Mais enfin !»
demande le malheureux marchand.
« Que désirez-vous donc ?»«
Vous n'avez pas ça, je le savais bien. Je voudrais un fusil, à deux coups. »
Et notre farceur était déjà loin, bien avant que sa victime fût revenue de sa stupéfaction. Si nous avons rappelé cette mauvaise plaisanterie, c'est qu'elle a été faite, à l'objet près, par un monsieur aujourd'hui plaignant en police correctionnelle. Il prétend qu'il n'avait pas médité la mystification qui lui a valu la correction dont il se plaint, et, de fait, le point de départ de l'aventure est en effet étranger à toute idée de moquerie.
« Voici la vérité, »
dit-il.
« Quelques jours avant, j'avais fait la connaissance d'une demoiselle dans un bureau d'omnibus, où elle attendait, comme moi, la voiture pour laquelle elle avait pris un numéro. Elle m'avait dit qu'elle était fleuriste dans un magasin de la rue Saint-Denis, qu'elle ne m'avait pas désigné, et nous nous étions séparés. Deux ou trois jours après, l'idée de revoir cette jeune fille, qui m'avait fait espérer un rendez-vous, cette idée me tourmentant, je me dis « Je vais chercher dans la rue Saint-Denis. » Je vois un magasin de fleuriste dans lequel travaillaient plusieurs demoiselles. Ne pouvant, du dehors, distinguer si la mienne était du nombre, j'entre. Je regarde parmi les ouvrières. Ma jeune fille n'y était pas. La maîtresse de la maison vient à moi, me demande ce que je désire. Ne sachant que répondre, je patauge et je finis par répondre que je désirais un parapluie. Toutes les demoiselles partent d'un éclat de rire. La dame me dit « Vous vous trompez, monsieur. C'est ici un magasin de fleurs. » Le marchand de parapluies est la porte à côté. Je m'excuse, je dis qu'en effet je m'étais trompé, et je me retire.
le président.
Oui, pour recommencer la même plaisanterie dans d'autres magasins.
Plaisanterie, non. C'était sans intention, je vous assure, monsieur le président.
Ne dites donc pas cela. La première fois, admettons que vous ayez été pris au dépourvu. Mais vous étiez préparé pour les autres magasins. D'ailleurs, la nature seule des objets que vous avez demandés indique bien la réflexion et le parti pris de se moquer. Vous entrez chez les marchands de fleurs, vous demandez à l'un un pavé de pain d'épices de santé. À l'autre, un bâton de colophane. Un troisième, un pot de pommade contre la chute des cheveux, et ça a recommencé le lendemain. Vous avez repris la soi-disant recherche d'une prétendue demoiselle. Cette fois, vous demandez un tambour de basque chez un marchand de fleurs. Seulement ce jour-là, vous n'avez pas été heureux.
J'ai été fort maltraité par plusieurs individus qui m'ont frappé à coups de canne.
Ces individus sont trois. Ils ont à répondre à une prévention de coups. L'un d'eux fournit les explications suivantes.
Un matin, un courtier en fleurs entre au magasin pour montrer des échantillons. Une des demoiselles lui demande s'il avait des parapluies. Là-dessus, nous nous mettons tous à rire et on raconte au courtier l'histoire de la veille. « Tiens, dit-il, c'est bien drôle. Il en est venu un, dans la maison d'où je sors, qui a demandé un jambon de Bayonne. » Pensant que c'était un monsieur qui avait voulu se moquer d'autres fleuristes, la patronne m'envoie au renseignement et j'apprends qu'il était allé faire la même plaisanterie dans 4 ou 5 magasins.
Je vous dis, je cherchais une demoiselle, et ne sachant que répondre...
Le président au prévenu.
Voyons, arrivez au coup.
J'étais donc en train de raconter tout cela dans une maison de fleurs où ce monsieur n'était pas allé, quand je l'aperçois dans la rue, qui regardait à travers les vitres. « Le voilà, dis-je à la maîtresse, il va entrer. » Nous convenons alors de le recevoir comme on reçoit quelqu'un qui se moque de vous. Il entre, examine les demoiselles. On lui demande ce qu'il désire. Il répond « Je voudrais avoir une canne à épée. » La dame alors lui répond « Nous avons cela, monsieur, veuillez prendre la peine de vous asseoir. » Il reste interdit. « Ah, vous avez... » dit-il. Alors, moi et 2 commis, nous passons dans l'arrière-boutique. Nous revenons avec des cannes en disant « En voilà des cannes à épée !»
Oui, et vous êtes tombés tous les 3 sur lui à coups de canne. 3 contre un homme hors d'état de se défendre. Ça n'est pas brave.
Oh, pour brave, ces messieurs ne le sont pas. Je leur ai demandé leur carte pour leur envoyer mes témoins.
Enfin, vous avez un peu cherché ce qui vous est arrivé.
Les 3 vengeurs de la fleur artificielle ont été condamnés chacun à 50 francs d'amende.
Affaire suivante. Poseuse de ce qu'on voudra.
On s'explique volontiers l'égoïsme assez fréquent chez les vieillards. L'expérience étant le fruit des années, plus on l'a vécu, plus on a eu d'exemples d'ingratitude pour les services rendus. Et le précepte « chacun pour soi » se pratique tout naturellement chez celui qui a reconnu, à ses dépens, que s'occuper des autres est un métier de dupe. Ce qui est inexplicable chez les vieillards, c'est l'avarice. On comprendrait la jeunesse prévoyante en vue des longs jours qu'elle a devant elle, et remarquez que, au contraire, la prévoyance n'est pas sa vertu. Mais les vieillards, même sans héritier, s'imposent des privations pour thésauriser. Voilà ce qui résiste à tous les raisonnements. On pourrait demander le mot de cette énigme au père Fourchon, qui est dans le susdicca. Mais il ne le donnerait probablement pas, d'abord parce qu'il ne donne jamais rien. C'est peut-être pour cela que la veuve Beuret a pris, du moins il l'affirme, elle le nie formellement. Nous verrons tout à l'heure qui des deux doit être cru. car le bonhomme a cité directement en police correctionnelle la veuve qu'il accuse d'abus de confiance.
« Messieurs les juges,
dit-elle,
si vous saviez que cet homme-là qui me traite de voleuse, ça vient simplement de ce qu'il est d'une avarice de sardines. »
Mouvement d'étonnement du tribunal et de l'auditoire à cette comparaison insaisissable. Le président.
« Vous voulez dire qu'il est d'une avarice sordide ?»«
Une sordide ?»«
Cela ne fait rien. Continuez et abrégez. » »«
Tenez, pour vous montrer. » Qu'ayant un jour un mal de dents à faire enfler des chevaux de bois et que devant aller le lendemain à Guéret, qui est son pays natif, pour un héritage, il est parti en disant qu'il se la ferait arracher là comme étant moins cher qu'à Paris et qu'il a mieux aimé souffrir la torture tout le long de la route pour la chose peut-être d'une pièce de 30 sous de différence. »
Ceci n'étant pas le procès, Monsieur le Président engage la prévenue à répondre à l'accusation portée contre elle, et l'incident éclot sur ce fait étrange d'un avare allant se faire extirper une dent gâtée dans le département de la Creuse.
« Comme on dit chez nous, il est comme le cochon, il ne fera de bien qu'après sa mort. »
« Voyons, répondez. Vous étiez au service de Monsieur Fourchon, et vous aviez, paraît-il, fait, sur une grande échelle, ce qu'on appelle danser l'anse du panier. »
Moi ? J'ai fait danser un panier sur une échelle ? Mais pas du tout, monsieur ! Je ne suis pas en service, moi ! J'ai mon indépendance !
Le père Fourchon.
Ayant acheté un immeuble, j'avais pris la veuve Beuret pour m'y poser des sonnettes.
Pour avoir un meilleur marché.
Vous posez des sonnettes.
Tenez, monsieur, v'là ma carte.
Elle passe une carte au tribunal et lecture en est donnée.
Veuve Beuret, garde malade. A été pendant 32 ans dans la serrurerie par son mari, défunt Beuret, de son vivant maître serrurier. Pose les stores, les sonnettes et les sangsues.
Je n'avais pas été la chercher exprès pour ça. Je la connaissais parce qu'elle m'avait posé des sangsues l'an dernier. Je l'ai chargée de mes sonnettes par humanité, pour lui faire gagner sa vie.
Gagner sa vie ? Ah oui, on la gagne avec vous. Parlons-en. Par humanité. Oh, homme fou !
Voyons, n'injuriez pas le plaignant.
Non, mais il n'y a qu'à voir son air faux.
Allons, taisez-vous.
Au plaignant.
Quelle somme avez-vous remise à cette femme ?
À elle, rien. J'ai payé au quincailler où elle a acheté les sonnettes, le fil, les ressorts et tout.
Eh bien alors, où est l'abus de confiance ?
Mais, monsieur, elle a abusé de ma confiance d'au moins une pièce de 3 francs et plus, vu que le quincailler m'a vendu de ça plus cher et qu'il lui a donné la différence. Ils s'étaient entendus tous les deux pour me gruger. Elle l'avoue, elle-même.
Et la remise que le quincailler lui a faite, vous appelez ça un délit ?
Voulant me payer la pose de ses sonnettes, pas même le quart de ce que ça vaut. Naturellement, j'ai eu mon petit bénéfice sur la fourniture.
La cause est entendue.
Aussi voleur l'un que l'autre.
Naturellement, il a été débouté de sa plainte.
Ah, c'est bien fait, homme faux. A-t-il l'air faux ?
Retirez-vous.
Si je m'en étais aperçu la fois des sangsues.
L'audiencier. Voyons, allez-vous-en.
Mais n'ayant pas regardé sa figure la fois des sangsues.
Hé, là-bas, posez un store, veuve Beuret, posez un store.
Affaire suivante. Le perroquet de la veuve Tronçon.
Il était beau, brillant, leste et volage, aimable et franc comme on l'est au bel âge. Dans ce portrait du perroquet de Nevers, on eût pu parfaitement reconnaître Jacquot, le perroquet de la veuve Tronçon, lequel ne différait de Vert-Vert que par la couleur gris cendré de son plumage et l'exquise convenance de son langage. Les B, les F ne voltigeaient point sur son bec. Aussi était-il l'oiseau gâté du logis. Là, tout s'offrait à ses friands désirs. Parents, amis, tout était oublié pour lui. Et de Matou, autrefois en faveur, dépérissait d'envie et de langueur. Une catastrophe survenue à l'occasion du déménagement de la veuve Tronçon causa la mort de Jaco. Mais un préparateur s'est chargé de lui rendre l'apparence de la vie. Que la paille lui soit légère, il emporte les regrets de quiconque l'a connu. Une larme à sa mémoire, et qu'il en soit question pour la dernière fois, puisque la justice correctionnelle est saisie du fait de destruction d'un animal domestique et de blessures volontaires reprochées à un jeune homme que la veuve Tronçon qualifie de bourreau de son perroquet.
« Messieurs,
dit-elle,
c'était le jour de mon déménagement. Tous mes meubles et effets, et même mes chapeaux, étaient transportés dans mon nouveau domicile, Faubourg Saint-Denis. Je m'en allais la dernière avec mon malheureux perroquet dans sa cage, ne voulant pas le confier aux déménageurs, qui sont des gens sans égard pour les animaux. Combien y en a-t-il eu de serins et autres oiseaux qui ont péri par l'incurie de ces hommes, en général auvergnats ou savoyards ?
Le président.
Voyons, madame, arrivons au fait.
Oui, monsieur, c'est vrai. Mais quand je pense à ça, l'indignation. Voyez-vous, enfin, m'y voici. Comme je passais près de la porte Saint-Denis avec ma cage, je me trouve tout à coup entre deux omnibus. Je veux me ranger pour ne pas être écrasé. Je me cogne contre une horreur d'homme.
Le prévenu.
Eh bien, dites donc.
Il voyait bien que je ne l'avais pas fait exprès, puisque c'était dans la précipitation, pour n'être pas écrasé avec mon pauvre perroquet, qui n'y a rien gagné, le pauvre animal. Alors, ce monsieur, cet homme, se retourne et m'appelle vieille bête. Je lui réponds qu'il est un grossier. Là-dessus, messieurs, il allonge un formidable coup de pied dans la cage qui l'envoie sauter à 100 pas avec la malheureuse bête qui a été tuée par la violence du coup. Et moi, j'en ai eu le poignet foulé.
Vous vous portez partie civile. Quelle somme de dommages-intérêts demandez-vous ?
Je demande 100 francs pour mon perroquet. Que cela ne paiera pas. Mais enfin, c'est le prix qu'il m'a coûté au Havre. Je ne compte pas la nourriture, vu que j'en ai eu l'agrément, ni les 20 francs que j'ai payés pour le faire empailler. J'ai en outre 45 francs de pharmacien et de médecin pour mon poignet. Je demande 150 francs.
Figurez-vous, messieurs, que tout le monde aurait agi comme je l'ai fait. Madame s'en vient se jeter sur moi, et avec un fil de fer de sa cage, elle m'arrache toute la doublure de soie de ma jaquette. Une jaquette neuve de 60 francs. Je me retourne, je l'appelle. « Eh, madame !» Et je lui fais voir ça. « Regardez donc ce que vous m'avez fait, lui dis-je. » Au lieu de s'excuser, elle me répond « Butor, c'est vous qui avez manqué de me jeter mon perroquet par terre en me bousculant. » Voyant que c'était comme ça, qu'elle me faisait des excuses, j'avoue que je l'ai traitée de vieille bête. À ce mot, elle se met à m'invectiver comme une furie. Ma foi, la colère m'a emporté. J'ai fichu un coup de pied dans la cage et j'ai envoyé l'oiseau au diable. Si madame a eu le poignet un peu tortillé, ce n'est pas de ma faute.
Les témoins entendus donnant complètement raison au prévenu, le tribunal l'a renvoyé des fins de la plainte, à la grande stupéfaction de la veuve Tronçon et aussi à la grande satisfaction de l'auditoire.
Affaire suivante. Une jolie fourchette.
La boutade de cette grande dame de la cour de Louis XVI, « Si le peuple n'a pas de pain, qu'il mange de la brioche », n'est vraiment pas une solution. Du reste, la façon dont, quelque temps après, on faisait passer le goût du pain n'en est pas une non plus. Mais patience, on la cherche. On l'a depuis longtemps parée aux famines. C'est toujours cela. et même dans les prospectus des restaurants à 24 sous, on lit « pain à discrétion ». À la suite du potage, des trois plats au choix et du dessert également au choix, si restreinte soit la variété. Les restaurateurs n'ont peut-être jamais réfléchi à ce que ces mots « au choix » peuvent cacher. Le menuet qui, au dire de Vestris, contenait tant de choses, est vide auprès du choix laissé à des mangeurs ruineux. Un de ces ogres était aujourd'hui devant la police correctionnelle sous prévention de filouterie. C'est une espèce de grand monsieur qui semble n'avoir d'autre état qu'un état voisin de la misère. Il est vêtu d'un paletot d'hiver qui traîne sur le pavé une existence décousue. Il tient à la main un chapeau lustré à l'américaine sous un robinet de fontaine et porte, en guise de cravate, une façon de fichu, comme l'as de pique, c'est le cas de le dire. Le président au restaurateur.
Le prévenu est allé dîner chez vous.
Oui, monsieur. Et quelle mâchoire, quel estomac.
Il a fait une grosse dépense.
Le prévenu.
24 sous. C'est un restaurant à 24 sous. Ça n'est pas plus malin que cela.
Vous avez dépensé 1,20 franc seulement. Soit. Ben, ce n'est pas une raison pour avoir l'attitude que vous prenez ici.
Oh, monsieur, c'était bien autre chose dans la salle où monsieur était attablé. On n'entendait que sa voix. Garçon, du pain pour moi. Du pain, garçon. Il ne fallait s'occuper que de lui, et il vous avalait un plat que le garçon n'avait même pas eu le temps de servir un autre consommateur. Après le pain, dont il a pris au moins 6 fois...
La carte porte « pain en discrétion ».
Oui, mais vous en demandiez à indiscrétion. Après le pain, il crie « Garçon, et mon rosbif ?» Voilà, monsieur. Avec beaucoup de pommes. Bien, monsieur. Énormément de pommes. C'est bon, on...
Ah bon, si ces messieurs en goûtaient.
Je ne dis pas ça pour le rosbif.
Alors ?
Après le rosbif servi, le garçon croit qu'il va pouvoir s'occuper des autres clients. Mais toujours la voix. Garçon, du pain. Et puis, garçon, enlevez et servez-moi. Et criant toujours. Mais vous n'entendez donc pas, garçon ? Les consommateurs commençaient à s'impatienter de n'entendre que les cris de ce monsieur. Enfin, on lui porte un merlan. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » dit-il. « Du merlan, ça ne nourrit pas. Et puis, il n'est pas frais. Donnez-moi autre chose. » Et il demande, comme deuxième plat, un autre rosbif qu'on lui sert. Et toujours le cri « Garçon, du pain !» Et puis « Garçon, mon troisième plat !» Le garçon lui porte des épinards. « Des épinards, dit-il, pour me un dérangement de corps. » On lui dit qu'il ne reste plus d'autres légumes. Alors il demande un troisième rosbif, toujours avec beaucoup de pommes de terre, et puis « Du pain, garçon, du pain !» Si bien que mes clients ont fini par se fâcher et que le garçon est venu me prévenir dans la salle du haut où je me trouvais. Je dis au garçon « Il n'a plus que son dessert, portez-le-lui. » Il s'en ira tout de suite après. Le garçon lui offre du fromage ou des pruneaux. « Des pruneaux » crie-t-il, « quand j'ai refusé des épinards, mais c'est encore pis !» Mon garçon lui dit que c'est le dessert du jour. « Est-ce qu'on ne peut pas remplacer le dessert par autre chose » demande-t-il. « Si, monsieur, » répond le garçon, « si vous voulez un petit verre. » Il refuse et demande qu'on lui remplace le dessert par un quatrième rosbif. Eh bien, on lui a refusé, et alors il s'est levé en colère, a déclaré qu'il ne paierait pas, et s'est sauvé. Mais nous avons crié au voleur, et des agents l'ont arrêté.
Le président au prévenu.
Et vous n'aviez pas un sou sur vous pour payer votre consommation ?
Je vous demande pardon, monsieur le président. J'avais de l'argent, mais les passants ont sauté sur moi, m'ont déchiré mes vêtements. Tenez, voyez mon paletot, et mon argent est tombé dans la rue.
Pourquoi, si vous aviez de l'argent, n'avez-vous pas payé votre dîner ?
Ce gargotier vous l'a dit lui-même.
Vous ne trouviez pas que ma cuisine était de la gargote à la façon dont vous dévoriez ?
Enfin, on peut changer son dessert contre autre chose, et vous avez refusé. Alors j'ai dit que je ne paierai pas.
Le tribunal condamne ce dévorant à 1 mois de prison.
Affaire suivante. Une Sévigné de cuisine.
On l'a assez dit et répété à propos d'une affaire récente. N'écrivez jamais. Ce qui est un peu exagérer la prévoyance, car ériger cela en principe, c'est faire le procès à Madame de Sévigné. À la vérité, la correspondance de Mademoiselle Angèle, dont il s'agit aujourd'hui, n'a qu'un rapport bien lointain avec celle de la célèbre épistolière. Mais il n'en est pas moins certain que si elle se fût abstenue d'écrire, il ne lui serait pas arrivé ce dont elle se plaint justement en police correctionnelle, à savoir de coups à elle administrés par Mademoiselle Pauline Gombon. Elle a donc écrit à M. Maxime, amant de cette demoiselle. Celle-ci a pincé la lettre et a trouvé une invite à cœur, comme disent les joueurs de whist, là où Mademoiselle Angèle affirme n'y avoir mis qu'une intention de bonne amitié, peut-être de bon langage aussi dans sa pensée, mais si au point de vue des sentiments il peut y avoir doute, il n'y en a certes pas au point de vue de la grammaire. Voici la lettre dont communication nous est donnée.
Mon cher ami, Louise Martin m'a dit que vous avez perdu votre place, mon cher ami.
Mon cher ami.
Ça m'a fait bien de la peine.
Louise Martin m'a dit que vous avez perdu votre place, mon cher ami. Ça m'a fait bien de la peine. Elle m'a dit que Pauline vous avait dit des sottises pour ça et que ça vous avait fait de la peine. Mon cher ami, que ça vous fasse pas de la peine. Ça me fera bien du plaisir que vous viendrez me voir. Vu que je connais un jeune homme que son oncle y aurait peut-être une place dans son commerce. Mais s'il n'y en a pas, ça me fera bien de la peine. Mon cher ami, je serais bien contrarié si Pauline vous fait de la peine. Si vous venez me voir, ça me fera bien du plaisir. Adieu, mon cher ami. Que tout ça vous fasse pas de la peine. Et si on en a une dans son commerce, ça me fera bien du plaisir. Et que si Pauline vous fait encore de la peine, je serai bien contente que vous viendrez me voir. Vu que si vous venez pas me voir, mon cher ami, ça me fera bien de la peine.
Mon cher ami, ça me fera
votre
ami
pour toujours.
Votre ami
Angèle.
Pour toujours. Angèle.
Le président a la prévenue.
Vous reconnaissez avoir frappé la plaignante ?
La prévenue.
Je ne lui en ai pas donné assez.
Singulière façon de vous défendre.
Je suis franche, moi. Je ne suis pas comme mademoiselle qui a cherché à m'enlever mon amant.
Le président a la plaignante.
Est-ce vrai ?
Oh, j'en ai deux.
Eh bien, vous aussi, vous êtes franche.
Et ça ne lui suffit pas. Il lui faut encore celui des autres qui n'en ont qu'un.
C'est faux.
C'est faux ? Et la lettre ?
Il n'y a pas de ça dans la lettre.
Ne la faites donc pas à la dinde, sale fille, que vous lui dites d'aller vous voir.
Par simple amitié.
Laissez donc. Vous me croyez donc bien grue de ne pas voir ce que vous voulez ? Même que Maxime en a bien ri de votre lettre, qu'une balayeuse des rues n'en ferait pas une aussi bête que ça. Nous l'avons montré partout, qu'on s'en tordait de rire.
Alors, si vous et Maxime avez tant ri de cette lettre, vous étiez assez vengés. Il ne fallait pas aller battre cette fille.
Ça n'empêche pas qu'elle voulait me l'enlever, c'est pour ça.
L'affaire a eu le résultat prévu. 16 francs d'amende. Et, à l'audience, Mademoiselle Pauline s'en est donnée pour son argent. Les paroles s'envolent, il est vrai, mais les écrits restent. Et il lui en reste un qui réjouira longtemps ses contemporaines.
Affaire suivante. On demande un ami.
Les moyens de se faire aimer des femmes sont extrêmement variés. Tout consiste à les appliquer à propos. Au lieu d'employer avec l'une le moyen qui conviendrait à l'autre, et réciproquement. C'est donc un tort de généraliser, comme l'a fait l'auteur de cette maxime. La femme est la pierre à fusil du sentiment, c'est en cognant dessus qu'on en fait jaillir l'étincelle de l'amour. Il est évident que la femme sensible, romanesque, repousserait avec horreur l'amant qui penserait ainsi, et choisirait celui qui défend de frapper une femme, fût-ce avec une fleur. Tandis qu'au contraire, Madame Sganarelle aurait raillé cette pensée poétique, étant connue qu'il lui plaisait d'être battue. Et elle n'est pas la seule, car en voici encore une qui veut absolument rentrer avec le mari qu'elle a quitté il y a 6 mois, parce qu'il la battait comme plâtre. Si c'est vrai, et elle l'affirme, pourquoi l'amène-t-elle en police correctionnelle parce qu'il a fêté son retour au logis d'une façon qui rappelle peu le retour de l'enfant prodigue? Uniquement parce qu'il l'a chassé à coups de pied et paraît irrévocablement décidé à ne plus la recevoir de sa vie. Elle aime donc alors ce mari brutal? Il est donc beau, séduisant? Qu'on en juge. Le voici qui s'avance sur le banc des prévenus, et tout le monde peut voir ce que, pour être honnête, parce que c'est en haut, on appelle une tête. Son nez éveille le triste souvenir de la vieille garde au passage de la Bérésina. Il sourit amèrement au cours des débats et montre une dent qui doit bien s'ennuyer si elle aime la société. Enfin, il s'appelle l'haricot. Un nom saugrenu, on pourrait même dire aussi sot que grenu. Le président.
Pourquoi avez-vous frappé votre femme?
Le prévenu.
Parce qu'elle voulait rester de force, et comme elle m'avait quitté par inconduite.
La plaignante.
C'est faux! Ça n'est pas dans mes principes!
Oh, tes principes, je les connais. Je te les achète. Voilà 100 sous, rends-moi 5 francs.
Pas de colloque.
Messieurs, elle est enceinte.
De qui?
Pas de moi, voilà tout ce que je sais.
Oh, oh, c'est dire!
On voudrait me faire endosser cet enfant-là comme un billet à ordre, pas moyen.
Oh, le monstre! Tous ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours été vertueuse. Je ne quittais pas la maison de la journée.
Oh, très vertueuse. Dans la journée, je ne dis pas le contraire.
Eh bien, quand est-ce que je me serais mal conduite?
Pendant que j'étais absent, une nuit sur deux pour mon travail. Les voisins me l'ont dit.
Serait-ce vrai? Cette nouvelle Pénélope défaisait-elle la nuit ce qu'elle faisait le jour? Elle proteste énergiquement contre l'accusation de Froden nocturne. Mais le mari persiste.
Messieurs, mon mari ne m'a jamais aimée, ne m'a jamais montré les moindres égards.
Le président au prévenu.
La loi vous oblige à reprendre votre femme.
Je préfère la guillotine. Je n'en veux plus, ni d'elle ni d'autres. Elles se valent toutes. Les amis aussi se valent tous. Les miens m'ont trompé avec mes maîtresses quand j'étais garçon, avec ma femme quand j'ai été marié. Je n'ai eu qu'un ami fidèle, un chien. Il est mort. Je l'ai fait empailler.
Vous n'en feriez pas autant pour moi.
Je ne veux plus qu'un ami, pris au hasard, un inconnu. Il vaudra peut-être mieux que les autres. J'ai fait publier un avis. On demande un ami s'adresser au bureau du journal. Et j'attends. Voilà ma résolution.
Le tribunal le condamne à 100 francs d'amende. Si l'haricot est l'homme trompé qu'il dit, comme son physique permet de le croire, l'envie de sa femme de rentrer avec lui s'explique. C'est une envie de femme grosse.
Affaire suivante, une femme en loterie. Une femme en loterie.
Il est toujours facile de blâmer. Mais on dira ce qu'on voudra de l'œillot. Il est certain qu'instruit des tentatives de son ami Pascal pour lui prendre sa femme, il a enjoint à celle-ci d'avoir à mettre fin immédiatement, par n'importe quel moyen, aux obsessions de Pascal. Or, le moyen infaillible pour une femme de mettre fin immédiatement aux tentatives d'un séducteur, c'est de succomber tout de suite. Loyot avait dit « par n'importe quel moyen ». Madame Loyot a choisi celui-là. Il n'a pas le droit de se plaindre, il est dans son tort. Il est vrai que Pascal est beaucoup plus fort que lui et n'aurait probablement pas enduré des menaces. Du reste, il aurait fallu que Loyot en fit autant à plusieurs autres galants de Madame Loyot, qui, non moins heureux que Pascal, tous le savaient, ne se cherchaient pas noise pour cela. Ils se seraient même probablement prêté aide et assistance aux besoins contre le mari, s'il eût voulu crier trop haut. Celui-ci a donc pris le parti de leur abandonner sa femme de la façon qu'on va connaître. Et c'est tout à fait en dehors de lui qu'a eu lieu la rixe qui amène Pascal en police correctionnelle sur la plainte de Bayou, qui l'aurait, paraît-il, frappé vigoureusement. Pascal a cité Loyot pour qu'il fournisse une explication nécessaire aux besoins de sa cause. Monsieur le Président invite donc le témoin à dire ce qu'il sait. Loyot.
Voilà. Mon épouse s'étant mise sur le pied d'une inconduite vraiment insupportable avec tous mes amis et connaissances, je lui dis que ça ne pouvait pas continuer comme ça et qu'il fallait divorcer, vu qu'après, elle pourrait se marier avec celui qui lui conviendrait. Elle avait le choix. Ils étaient 7, 8 au moins. Je n'ai jamais su au juste. Elle me répond qu'elle veut bien. Je vais à l'assistance judiciaire. On me la refuse. Me voilà très embêté de dépenser de l'argent pour me débarrasser de ma femme ou de la garder, la loger, la nourrir, l'entretenir pour qu'elle fasse la noce avec d'autres. Alors, j'ai eu une idée qui était de faire 7 ou 8 billets autant que je lui connaissais d'amant, et de la mettre en loterie.
Le Président.
Vous avez mis votre femme en loterie ?
Dame, monsieur, ça mettait tout le monde d'accord. J'en avais parlé à ma femme et aux autres. Tout le monde avait trouvé l'idée bonne. Pour l'or, c'est Bayou qui l'a gagné.
Eh bien, qu'est-ce que vous savez de la scène de coups ?
Ah, je n'y étais pas. J'avais reçu mes 40 francs pour les 8 billets à 100 sous pièces et j'ai laissé les autres se débarbouiller.
Le Président au prévenu.
Pourquoi avez-vous fait citer cet homme ?
Pascal.
Voilà. Voulez-vous lui demander si c'était lui qui tenait le chapeau, où étaient les billets ?
Oui, je le tenais.
Bon. Après, comment ça s'est-il passé ?
Comment ça s'est passé ? Voyons. J'ai d'abord secoué le chapeau.
Après ?
Après, je...
Qu'est-ce qui a tiré le premier ?
Attendez, je... Ah, voilà.
Je vous demande qui est-ce qui a tiré le premier.
Voilà, j'ai dit...
Il ne s'agit pas de ça. Qui est-ce qui a tiré le premier ?
Mais ne m'embrouillez donc pas. Vous me faites perdre le fil de mes idées. J'ai perdu ce que je voulais dire.
Ah, si vous attachez vos idées au bout d'un fil, comme on attache des hannetons, ce n'est pas étonnant que vous les perdiez.
Enfin, quel est le but de votre question ?
Le but, c'est qu'il a fait tirer Bayou le premier, et que Bayou a dit après que le sieur Loyot, à qui il avait donné 20 francs pour ça, lui avait dit comment il reconnaîtrait le bon billet avec la main. Alors, j'ai dit à Bayou, c'est de la triche, la loterie est nulle, que la querelle est venue de là.
Marie ? Prévenu et plaignant, vous êtes tous aussi intéressants l'un que l'autre.
Bayou.
Je proteste, Loyot ne m'a rien dit.
C'est faux, Bayou ne m'a rien donné.
Le Président, après avoir prononcé l'acquittement de Pascal.
Retirez-vous tous.
L'audience est levée.
D'honneur de voix ayant participé à ce projet collectif, Milady, Cocotte, Claire Leduc, Chantal Hélène, Christine Sétrin, Richard Keller, Florent, Ludo, Lemoco et Bernard, avec le soutien et les conseils techniques de Christine Sétrin.